Vous écoutez
RMC. RMC, l'interview.
Apolline de Malherbe.
Bonjour Elisabeth Borne.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions sur RMC et BFM TV. Il est 8h33, vous êtes la ministre du Travail. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce matin, très concrètes pour nous tous sur le télétravail, sur le salaire, sur l'apprentissage, sur le temps de travail. Avec d'abord cette première question, et si on était en week-end ce soir, pourquoi pas ?
Ben écoutez, c'est effectivement le débat sur la semaine de 4 jours. Moi, je pense que dans certaines entreprises, il peut y avoir des négociations pour mettre en place une semaine de 4 jours. Mais je pense qu'on ne peut pas du tout imposer une telle mesure. Et je pense qu'il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux Français. Vous voyez, certains candidats vous disent on va augmenter les salaires de 10% pour faire ensuite marche arrière. Et de la même façon, laissez croire...
Là, c'est d'abord Yannick Jadot qui a proposé cette réduction du temps de travail. Alors, avec plusieurs modalités possibles, soit ce serait les 32 heures, soit ce serait les 35 heures sur 4 jours, soit même carrément l'idée qu'on travaille 4 ans et puis on ait ensuite une cinquième année qui soit une sorte d'année bonus. Sauf qu'il y a aussi le patron de Total qui dit pourquoi pas.
Non, mais je pense que ça peut se discuter dans certaines entreprises. Je pense que c'est la bonne échelle à laquelle on peut avoir des négociations sur des mesures de ce type-là, mais je ne pense pas que ça puisse être une mesure générale. Parce que vous voyez, soit il s'agit de faire en 4 jours ce qu'on faisait en 5 jours, et ça peut être aussi beaucoup de stress pour les salariés, donc on ne peut pas l'imposer, soit on ne va pas laisser croire aux gens qu'on peut travailler moins sans avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les Français nous disent, c'est que leur préoccupation, c'est plutôt le pouvoir d'achat.
Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous n'y êtes pas favorable. Vous ne ferez rien, en tout cas, pour le favoriser.
Je pense que ça n'est pas une mesure qu'on décide d'en haut, qui s'imposerait à toutes les entreprises. Ensuite, si des entreprises veulent avoir des discussions, comme Total, vous l'avez dit, veut en avoir une, écoutez, qu'ils le fassent.
Mais allez-vous les encourager ? Est-ce que vous diriez au patron de Total, si vous l'avez devant vous, au fond, allez-y, quoi.
Je pense que c'est un choix de l'entreprise. Moi, je vous dis, de manière générale, ça peut poser des questions à la fois de pression sur le rythme de travail, s'il s'agit de faire en 4 jours ce qu'on faisait en 5 jours, et ça peut poser des problèmes de pouvoir d'achat. C'est ce qu'on avait vu, vous savez, après les 35 heures à la fin des années 90, tout le début des années 2000, les salaires ont augmenté moins vite. Et je pense que c'est pas ce que souhaite la majorité des Français.
Mais Elisabeth Borne, il y a certains pays qui carrément tentent l'expérience. L'Espagne, elle teste la semaine de 4 jours dans une région. Vous voudriez pas tester ça ?
Je vous dis, moi, c'est des choix d'entreprise. Et de façon générale, c'est clair qu'en France, on est un des pays où on travaille le moins sur l'année, le moins tout au long de la vie. Ça pose des enjeux de compétitivité. Et à la fin, ma priorité, c'est qu'on crée de l'emploi et qu'un maximum de Français ait un emploi.
Il y a un patron qui l'a mis en place, c'est Laurent de la Clergerie. Avec son entreprise, il a 1000 employés, LDLC. Il reste hyper compétitif et il dit surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de congés maladie, d'arrêt maladie dans son entreprise. Donc finalement, ça permettrait peut-être justement d'arriver en bonne santé à la retraite.
Je pense qu'il y a des entreprises dans lesquelles ça peut se mettre en place, mais je vous dis, c'est pas le rôle de l'État. Et en tout cas, moi, je préconise pas du tout qu'on impose une telle règle à toutes les entreprises.
Elisabeth Borne, ce matin, à propos de la campagne et des propositions des uns et des autres, c'est dans le journal Le Parisien, vous dites « Objectivement, je trouve qu'il y a peu d'idées ». Je vous ai trouvé un peu gonflé de dire ça. Elles sont où les idées d'Emmanuel Macron ?
Non, attendez, je parlais des jeunes. Et quand on regarde les propositions des candidats
sur le travail,
pour les jeunes, vous voyez, moi j'entends Marine Le Pen qui nous dit « on va exonérer d'impôt sur le revenu les jeunes de moins de 30 ans ». C'est un peu curieux parce que vous voyez, ça veut dire que ceux qui s'en sont sortis, qui ont des bons revenus, on les aide. Les autres qui n'ont pas encore trouvé un travail.
Oui, mais vous dites qu'il y a peu d'idées. Ça, au moins, c'est une idée. Alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais enfin, c'est quand même un petit peu créatif, quoi. Vous inventez quoi, vous ?
C'est le contraire de l'égalité des chances, vous voyez. Alors, nous, on met en place, d'abord, on a beaucoup agi pour l'emploi des jeunes. Et ça a été notre priorité tout au long du quinquennat, a fortiori dans la crise. Vous voyez, on a lancé un plan, un jeune, une solution à l'été 2020, parce qu'on voulait éviter à tout prix ce qui s'était passé après la crise de 2008-2009. On avait eu une explosion du chômage des jeunes, plus de 30% d'augmentation du chômage des jeunes. Donc ce plan, c'est une véritable révolution dans l'accompagnement des jeunes, avec une réponse pour chaque jeune. Ça a été 4 millions de jeunes qui ont pu bénéficier d'une des solutions du plan Un jeune, une solution. Et aujourd'hui, on a le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 2008. Et il n'y a jamais eu une telle part des jeunes qui travaillent qu'aujourd'hui.
Vous allez prolonger
ce système ? Alors, on veut continuer à accompagner les jeunes pour permettre à chacun d'accéder au plus vite dans l'emploi. On sait que la France est mal positionnée, vous voyez, historiquement, sur l'emploi des jeunes, qu'on a beaucoup de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. Donc on va lancer le 1er mars, donc dans moins d'un mois, le contrat d'engagement jeune pour aider
ceux... Donc vous allez pérenniser l'aide des jeunes à trouver un emploi.
Absolument. Notre objectif, c'est vraiment de sortir de la situation qu'on vit dans notre pays depuis des décennies, où c'est une galère pour beaucoup de jeunes pour accéder à l'emploi. Et donc on veut accompagner ceux qui, malgré la bonne conjoncture économique, ne trouveront pas un emploi, les aider d'abord à découvrir des métiers, donc à être en entreprise.
Donc ça, c'est autre chose qu'un jeune,
C'est la continuité d'un jeune, une solution, avec vraiment un focus maintenant pour les jeunes qui, malgré la très bonne conjoncture économique, ne trouveront pas seuls un emploi. Donc c'est un accompagnement intensif, 15 à 20 heures par semaine. Je vous dis beaucoup d'immersion.
À partir du 1er mars. Hein.
À partir du 1er mars, beaucoup d'immersion en entreprise. L'objectif, c'est qu'ils trouvent au plus vite un emploi. Et pour ceux qui en ont besoin, qui ont un frein financier, des difficultés financières, ça sera aussi une aide de 500 euros par mois.
Vous avez dit le mot révolution, mais précisément c'était le mot d'Emmanuel Macron. Il avait d'ailleurs publié un livre lors de la dernière campagne présidentielle qui s'appelait Révolution. Est-ce que vous avez des révolutions à nous proposer pour les 5 ans qui viennent ?
Écoutez, je pense que le président de la République le dira le moment venu. On a fait des transformations très profondes. Vous voyez, par exemple, l'apprentissage, hein, dont on a présenté les chiffres hier. On a totalement transformé l'apprentissage.
J'ai bien compris que là, vous me parlez du passé. Oui. Moi, je vous parle de l'avenir, parce qu'on est en pleine campagne, qu'on a bien compris qu'Emmanuel Macron était candidat à sa réélection. Donc, il va bien falloir qu'à un moment, vous ayez des propositions, que vous donniez envie aux Français
d'avancer 5 ans. Oui, mais je pense que le moment venu, Emmanuel Macron dira s'il est candidat et les propositions qu'il souhaite porter.
Donc, sur le travail, pour l'instant, vous n'avez pas... Vous travaillez un peu, vous planchez là-dessus?
Ah, mais moi, je vous dis... de continuer à accompagner tous les jeunes pour qu'on sorte de cette difficulté structurelle de notre pays qui est stressante pour les jeunes et pour les parents, de ces difficultés pour entrer dans la vie professionnelle, de s'assurer que les jeunes, on les prépare à un métier, qu'ils peuvent y accéder le plus vite possible. C'est des enjeux que moi, je continuerai à porter.
Avant de parler du télétravail, je voudrais justement qu'on dise un mot sur l'apprentissage, puisque vous nous parlez des jeunes. Il y a un jeune, une solution, et puis il y a la question de l'apprentissage. L'apprentissage, ça marche bien. Franchement, là, c'est une de vos fiertés dans le bilan. Mais ça marche bien aussi parce que c'est quand même très aidé aujourd'hui, l'apprentissage. Est-ce que vous allez maintenir les aides aux entreprises qui emploient des apprentis ?
Alors, on peut dire déjà qu'effectivement, 2021, c'est une nouvelle année historique avec près de 720 000 jeunes qui ont signé un contrat d'apprentissage. Je rappelle qu'en 2017, on était à moins de 300 000. Et c'est une très bonne nouvelle pour les jeunes parce que quand on signe un contrat d'apprentissage, donc on se forme en entreprise, donc on est en train aussi d'acquérir une expérience professionnelle. La formation, elle est gratuite et en plus, on est rémunéré. On découvre le monde de l'entreprise et donc c'est très souvent à la clé un job. Effectivement, c'est
mais
très bon résultat.
Les entreprises, elles touchent entre 5 et 8 000 euros d'aide par apprenti. Donc pour l'instant, c'est quand même sous perfusion, très largement.
Écoutez,
si vous enlevez la perfusion, vous n'avez pas peur que tout s'écroule.
On a absolument voulu, effectivement, que dans la crise et en sortie de crise, les entreprises ne renoncent pas à embaucher un apprenti et elles se sont toutes mobilisées. Et moi, je voudrais le saluer parce que je vous dis, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les jeunes. C'est une voie d'excellence pour trouver un métier. Ensuite, on a prolongé les aides jusqu'au 30 juin. Et ma conviction, c'est qu'il ne faut surtout pas casser cette dynamique.
Donc, ça veut dire qu'au-delà du 30 juin, vous pourriez à nouveau prolonger les aides.
Moi, je vous dis, on fera tout pour continuer à soutenir l'apprentissage. C'est la meilleure façon de se former et d'entrer dans la vie professionnelle.
Une question sur les jeunes, justement, dans la vie professionnelle. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé au 32-16 sur RMC, qui sont des formateurs, qui disent qu'on a un gros problème avec les bacs pro, parce que les jeunes, qui parfois ne sont pas vaccinés, sont souvent du coup refoulés des entreprises qui demandent quand même à ce qu'ils soient vaccinés. Est-ce que ça veut dire que ces jeunes qui ne sont pas vaccinés et qui donc parfois ne peuvent pas travailler en entreprise vont se retrouver à ne pas avoir leur bac pro validé ?
Alors attendez, c'est un peu surprenant parce qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale en entreprise.
Non, mais il y a un certain nombre d'entreprises
où normalement il y a un secret médical.
Il y a quand même un contact. Non. Quand il y a un contact avec le public, il faut être vacciné et les jeunes parfois refusent de le faire.
Il y a quelques métiers.
Dans l'hôtellerie-restauration,
voilà,
notamment,
absolument.
Qui est quand même
quand
un des lieux
clients,
où les jeunes
les,
dans le
les clients ont effectivement, quand on exige un pass vaccinal des clients, alors les salariés doivent être effectivement vaccinés. Moi, je pense que l'essentiel des métiers en France, vous voyez, c'est à peu près 2 millions de salariés sur l'ensemble des salariés qui aujourd'hui doivent avoir un pass vaccinal. Donc il y a beaucoup d'autres voies, y compris dans l'hôtellerie et dans la restauration. Il y a des métiers, par exemple les métiers de cuisinier, vous n'avez pas besoin d'avoir un pass vaccinal aujourd'hui.
Mais pour ces jeunes-là qui parfois du coup ne font pas leur stage, le bac pro va leur être tout simplement refusé.
Enfin, moi je peux qu'inciter les jeunes et les moins jeunes qui ne se sont pas encore fait vacciner, à le faire.
Alors justement, vaccin, télétravail, alors on peut espérer, on va croiser les doigts, que tout ça commence à être derrière nous, c'est ce que disait le ministre de la Santé hier soir sur BFM TV. Le télétravail, en tout cas obligatoire, est derrière nous, puisque depuis hier, il n'est plus obligatoire, il est simplement recommandé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire recommandé? Sur combien de jours, avec quelle incitation?
Alors précisément, puisque ça n'est plus une obligation, ce choix, combien de jours, par exemple, ça se fait dans l'entreprise, dans le dialogue entre l'employeur et les représentants des salariés. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont signé des accords sur le télétravail. Ben, c'est le moment d'appliquer ces accords, de décider, le cas échéant, d'aller un peu plus loin, hein, parce que l'épidémie n'est pas complètement derrière nous. Et donc, c'est une mesure dont on sait qu'elle peut ralentir la diffusion du virus. Ça reste une très bonne mesure. Mais moi, je souhaite que ce soit discuté au sein des entreprises pour trouver le bon équilibre.
Donc là, maintenant, vous leur laissez la main, en quelque sorte?
Ben, on laisse la main, on rend la main aux entreprises. C'était une demande très forte, notamment des organisations patronales. Le dialogue, il doit se passer dans l'entreprise.
Et que fait l'État employeur, pour le coup? Est-ce que dans les entreprises publiques, ce sera pareil, en fait, à chaque département de décider? Ou est-ce que vous allez fixer des règles?
Alors, vous savez qu'il y a un accord, justement, sur le télétravail dans la fonction publique, en tout cas pour ce qui relève de l'État, qui prévoit 2 jours de télétravail. Et on va se remettre sur cette norme de 2 jours de télétravail.
Quel est le bilan du point de vue du respect du télétravail? Vous aviez promis qu'il y aurait plus de contrôles. Est-ce que les contrôles ont été fructueux? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que, bah oui, tout le monde respectait? Combien d'amendes ont été imposées? Quelle est la réalité du télétravail en France?
Alors écoutez, moi j'ai pu constater, hein, dans la dernière enquête qu'on a faite, quand on a prolongé le télétravail pour une dizaine de jours, au-delà des 3 semaines qui avaient été annoncées initialement, j'avais demandé un dernier effort, un dernier coup de collier, si je peux dire, et ça a été entendu. On est en moyenne à 65% des salariés qui peuvent facilement télétravailler qui l'ont fait, 75% en Île-de-France, donc c'était 5 points de plus que début janvier. Donc cet appel, il a été entendu, et de façon générale, les entreprises ont respecté ces obligations.
Combien de contrôles, combien d'entreprises sanctionnées?
Alors 5000 contrôles par mois. Et on a des mises en demeure qui sont en cours, il n'y a pas encore de sanctions. Quand on fait une mise en demeure, on voit que beaucoup d'entreprises se remettent à respecter les règles.
Il n'y a pas eu d'amende finalement. C'était une menace d'amende, mais les amendes finalement n'ont pas eu à être imposées.
Il y a un délai, vous savez, j'avais insisté quand on a présenté la mesure sur le fait que ça ne vient pas du jour au lendemain, qu'on laisse à l'entreprise le temps, le cas échéant, de se remettre en conformité avec les règles. Mais ces contrôles et ces éventuelles sanctions, elles ne concernent pas que le télétravail. Vous savez que les autres règles, le port du masque en entreprise quand on est dans des espaces partagés et fermés, ou le fait de respecter des distances, le fait de désinfecter les outils de travail partagés, ça reste des obligations et on va donc continuer les contrôles sur le respect du protocole sanitaire en entreprise.
Il y a une question qui concerne beaucoup de ceux qui nous écoutent et surtout à ce soir-ci à 8h45, l'heure de l'école. C'est quand même la question des écoles et des classes parfois fermées ou de l'enfant qui est malade. Est-ce que vous allez continuer à rémunérer les parents qui sont contraints de rester chez eux ou est-ce qu'il faut qu'ils se mettent au télétravail et qu'ils arrivent à jongler entre enfants et boulot?
Alors, les règles ne changent pas. Si votre enfant, effectivement, est positif au Covid et qu'il reste chez vous, vous êtes indemnisé avec des arrêts maladie. Vous avez un arrêt maladie, vous êtes indemnisé. Et ça, ça va continuer. Parfois, dans les entreprises, il peut y avoir un accord entre l'employeur et le salarié pour qu'il puisse travailler. Ça dépend évidemment de l'âge de l'enfant. Parfois, c'est possible. Parfois, ça ne l'est pas. Quand ça ne l'est pas, le salarié peut toucher des
indemnités maladie. Ça, c'est quand votre enfant est positif. Si c'est la maîtresse qui est positive et la classe qui est fermée et l'enfant qui est à la maison, est-ce qu'il y a une solution?
Alors, on avait mis en place, quand on a des classes fermées, une réponse avec l'activité partielle. Et ça, ça reste aussi valable. L'activité partielle peut vous prendre en charge.
Pas de date de fin là-dessus. Pour l'instant, vous continuez ces aides.
On a prolongé toutes les mesures et notamment tout l'accompagnement par l'activité partielle, pris en charge à 100% quand on a ce type de situation ou des restrictions qui existent encore. Je pense par exemple aux discothèques qui restent fermées jusqu'à mi-février.
Ça s'en est noté dans leur agenda, la date du 16.
On est très attentif à avoir toujours des dispositifs d'accompagnement. accompagnement tant qu'il y a des contraintes pour les entreprises et pour les salariés.
Elisabeth Borne, je voudrais qu'on parle salaire. On en parle beaucoup de la question du pouvoir d'achat. L'une des clés, c'est quand même de gagner plus. Mm-hmm. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous aviez demandé aux patrons des différents secteurs de jouer le jeu, de rémunérer davantage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dresser un premier bilan?
Alors effectivement, moi je l'avais dit, c'est pas acceptable que dans un certain nombre de secteurs, les grilles de rémunération aient des premiers niveaux qui soient en dessous du SMIC. Alors évidemment, le SMIC s'impose, et donc les salariés sont bien payés au SMIC, mais ça veut dire que quand vous avez parfois 5 niveaux de la grille salariale ou plus, on a des exemples où on a 12 niveaux de la grille salariale qui sont sous le SMIC, ben ça veut dire que pendant des années, vous ne progressez pas. Et c'est effectivement très décourageant pour les salariés. Donc moi, j'avais demandé à ces branches, à ces secteurs, d'engager des discussions. Il y a, sur 40 secteurs avec lesquels on avait engagé ces discussions et on leur avait demandé d'accélérer leurs négociations. Il y en a une quinzaine qui représentent 2 millions de salariés.
16 branches qui sont en non-conformité parce que leurs minima sociaux sont en effet inférieurs au SMIC, leurs minima salariales.
Alors, c'est celles qui étaient en dessous avant le 1er octobre. On a des négociations qui sont bien passées, par exemple dans les hôtels, cafés, restaurants, où on a une revalorisation de la grille salariale de 16% en moyenne.
Donc là, vous dites
et
bravo,
puis,
pour le coup.
Je pense que c'est très bien. Et puis, des discussions vont se poursuivre aussi sur l'organisation du travail, les conditions de travail. Donc, c'est, moi, j'appelle toutes les branches à avoir ce type de discussion. Pour celles qui n'ont pas encore conclu, on va suivre très attentivement ce qui se passe. On a, par exemple,
est-ce que vous pourriez vous dire à un moment, on va carrément, dans ces cas-là, les sanctionner, ces branches?
Écoutez, moi, je pense qu'on...
Vous pensez à la coiffure, par exemple, j'imagine?
Alors, le secteur de la coiffure, effectivement, il n'y a aucune discussion. Je pense que il faut vraiment que les organisations patronales réfléchissent aussi à l'attractivité de leur métier, à l'image qu'ils donnent de leur profession, en refusant d'avoir des propositions de revalorisation salariale dans ces métiers.
Aujourd'hui, un coiffeur qui commence, il est payé en dessous du SMIC. Est payé 1 534 € brut contre un SMIC à 1 603 € brut.
Le SMIC est garanti, donc il a bien le SMIC, mais par contre, ça veut dire, vous voyez, que vous pouvez avoir travaillé 5 ans, vous êtes toujours payé au SMIC, voire 10 ans, vous êtes toujours payé au SMIC. Donc après ça, quand on a effectivement des coiffeurs qui nous disent on n'arrive pas à recruter, écoutez, c'est bien normal, et il faut effectivement donner des signes sur la considération qu'on porte aux salariés, et je les invite à nouveau à engager des discussions pour revaloriser leur grille.
Mais pourquoi est-ce que, au fond, vous remonteriez pas tout vers le haut avec une augmentation nette du SMIC? Quand vous voyez que l'Allemagne augmente de 25% le SMIC, l'Allemagne, c'est quand même, franchement, plutôt un parent vertueux.
Alors, on partait pas du même niveau, vous voyez, je pense
que... Oui, mais là, ils vont être devant nous.
Au global, vous savez, on a pris beaucoup de mesures dans le quinquennat pour améliorer le pouvoir d'achat des classes moyennes et spécifiquement des salariés qui sont payés au SMIC. On a notamment étendu et augmenté la prime d'activité. Et donc, je peux vous assurer que le revenu au niveau du SMIC en France, il reste supérieur à ce qu'on aura en Allemagne après cette augmentation.
Vous allez vous impliquer un peu quand même dans la campagne, Elisabeth Borne?
Écoutez, moi, j'ai très envie de défendre le bilan qu'on a dans le domaine de l'emploi, où on a un taux de chômage qui est au plus bas depuis près de 15 ans.
Mais c'est le cas dans toute l'Europe, quand même. À un moment, il faut aussi dézoomer et regarder ailleurs.
Oui,
c'est
vous savez, quand on a 500 000 demandeurs d'emploi sans aucune activité de moins entre décembre 2020 et décembre 2021, il n'y a pas grand monde qui nous prédisait d'avoir une telle situation sur l'emploi. Quand on a un taux d'emploi, c'est-à-dire la part des Français qui ont un travail qui est au plus haut depuis 1975, écoutez, je pense que ça montre qu'on a bien su protéger l'économie, la faire repartir, et que c'est une très bonne nouvelle que chacun puisse trouver un emploi.
Quand vous entendez qu'il y a 135 milliards d'euros, un méga profit pour les entreprises du CAC 40, vous vous dites c'est une très bonne nouvelle, ou est-ce que c'est le signe d'une inégalité face aux revenus en France?
On recommande très fortement d'avoir des accords dans les entreprises pour partager la richesse qui est produite. C'est notamment ce qu'on a pu faire avec la loi Pacte pour encourager l'intéressement, la participation.
Vous recommandez.
On a donné tous les outils et je pense que les entreprises, elles sont bien conscientes qu'il faut aussi motiver les salariés, avoir des bonnes rémunérations, des perspectives de progression professionnelle.
Et s'ils ne vous écoutent pas, tant pis quoi.
Non, écoutez, je pense que vous voyez, on a montré qu'on était assez insistant avec les branches qui n'entendaient pas, les secteurs qui n'entendaient pas la nécessité de revaloriser leurs salaires.
Ouais, ils l'ont fait aussi parce qu'ils n'arrivaient plus à embaucher. Donc
je pense que c'est effectivement ce que vous dites est parfaitement exact. Quand on fait baisser le chômage, on met aussi les salariés en situation de mieux négocier leurs salaires.
Sauf que là, les entreprises du CAC 40, avec leurs 135 milliards, vous aurez voulu leur dire « Allez, je vous recommande ».
Non, mais je pense que... Enfin, moi, je vous dis, hein, on a des tensions de recrutement aujourd'hui et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de mener des négociations salariales en étant conscients qu'il faut fidéliser les salariés, qu'il y a aussi des emplois ailleurs et que si on ne donne pas, effectivement, des augmentations salariales, si on ne travaille pas sur les conditions de travail, ben, les salariés peuvent choisir d'aller ailleurs.
Et finalement, peut-être que c'est pour ça que Total est pour... La semaine à 4 jours.
Mais c'est aussi une autre façon de jouer sur les conditions de travail des salariés.
Merci Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions sur RMC et BFM TV. Ministre du Travail, il est 8h53.